Fiato. Et j'étais en ville et j'ai entendu l'explosion. Donc nous nous sommes mis à l'abri. On a eu vraiment peur. La circulation était vraiment dense. Tout le monde était bouleversé. La pagaille totale, c'est vraiment de la débandade. Tout le monde se cherche. Nous souhaitons vraiment un changement. Il faut qu'on redouble encore plus d'efforts de sécurité dans notre pays. Mais nous ne savons pas si cette attaque concerne vraiment le jugement qui a eu lieu la fois dernière ou bien si ce sont des djihadistes. Nous ne savons rien pour l'instant. Mais nous voulons la paix dans notre pays.
Aristide Zundi, je suis un livreur de l'Effray. J'étais dans l'alentour de l'état-major. J'ai attendu un bruit sourd qui surgissait vers là-bas. Et d'un coup, je voyais la fumée noire. Quand j'ai entendu le bruit de l'explosion, mes oreilles bourdonnaient. J'ai eu peur. En tout cas, je me suis cherché. Où je voyais les gens qui fuyaient partout, qui se cherchaient. Voilà. Et en tout cas, ça a paniqué la ville.
Voilà quelques habitants de Ouagadougou. Alors avec moi dans ce studio, Bagassi Koura, rédacteur en chef du service Bambara de VOA Afrique. Alors Bagassi, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Qu'est-ce qu'on sait jusque-là de l'identité des assaillants?
Ce qu'il faut dire jusque-là, hein, l'attaque n'a pas été revendiquée. Il s'agit de jeunes, 8 au total, c'est en tout cas ce qu'on a appris, qui étaient habillés pour certains en tenue militaire, ce qui aurait permis, comme Zoumana le disait, de tromper la vigilance au niveau de l'état-major. Vous savez, le Burkina a connu un certain nombre de coups d'État dans son histoire et très tôt le matin, dès qu'on a appris que l'état-major était attaqué, beaucoup ont pensé à un coup d'État, mais rapidement, les gens ont compris qu'il ne s'agissait pas d'un coup d'État parce que ceux qui font les coups d'État ne s'en prennent pas à l'ambassade de France.
Et les bilans, en fait, certains évoquent un bilan beaucoup plus lourd. Nous, on s'en tient au bilan officiel pour l'instant.
Oui, certaines sources parlent de 28 morts uniquement à la base militaire à l'état-major de l'armée, mais le gouvernement s'en tient donc à ce chiffre de 8 assaillants tués et 7 militaires qui ont été tués. Il y a aussi près de 70 blessés, dont notamment 3 grièvement.
D'accord. Et rapidement, pourquoi les forces burkinabées semblent surprises cette fois-ci encore?
Oui, parce que vous savez, après plusieurs mois de sécurité renforcée, de vigilance, à un moment donné, peut-être qu'il y a une sorte de fatigue où les gens se font prendre au moindre détail près, et c'est peut-être ce qui est arrivé là.
Merci beaucoup Bagassi Koura. Alors, il n'y a pas encore de revendication, comme vous le disiez. Le terrorisme au Sahel touche aussi des pays comme le Mali et le Niger. Et nous sommes en ligne avec Idi Angouma, ancien ministre de l'Intérieur du Niger. Alors, monsieur le ministre, quelle lecture faites-vous de cette nouvelle attaque à Ouagadougou?
Merci. Je pense que cette nouvelle attaque de Ouagadougou, malheureusement, nous prouve une fois de plus que nous constituons un maillon faible et que les attaques sont assez faciles et meurtrières comme on le constate. Ce qui est surprenant, c'est l'attaque en plein jour à 10 heures, à une heure inhabituelle, ce qui veut dire également que cette attaque avec ce qui en est suivi, c'est qu'il y a eu forcément une reconnaissance des lieux et qu'ils ont voulu faire un coup d'éclat.
D'accord, merci beaucoup.
Et là, c'est ce qu'il faut surtout, se dire comme première réaction.
D'accord, Idi Angouma, ancien ministre de l'Intérieur du Niger.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
On passe au Nigeria où 3 travailleurs humanitaires ont été tués dans la ville de Ran, dans le nord-est du pays. Une attaque attribuée au groupe Boko Haram, Raissa Girondin.
L'ONU confirme qu'au moins 3 humanitaires nigériens ont été tués et 3 autres blessés dans une nouvelle attaque de Boko Haram dans le nord-est du pays. Parmi les victimes figurent 2 employés de l'Organisation internationale pour les migrations et un médecin consultant pour l'UNICEF. Plusieurs soldats auraient été tués dans l'attaque, mais aucune confirmation officielle. Une infirmière est portée disparue, faisant craindre un enlèvement, a précisé le communiqué d'OCHA. Les travailleurs humanitaires mettent leur vie en danger chaque jour pour fournir une aide aux femmes, aux enfants et aux hommes vulnérables, a déclaré le coordinateur d'OCHA au Nigeria, Edouard Kallon. L'UNICEF condamne fermement cette attaque et rappelle que le nombre d'attaques sur des humanitaires augmente dans le monde entier de façon alarmante. Nous devons réaffirmer notre engagement pour les protéger, a déclaré Marie-Pierre Poirier, directrice régionale de l'UNICEF.
49 personnes ont été tuées dans de nouvelles violences communautaires survenues la nuit dernière en Ituri. C'est dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Selon l'association Caritas, les assaillants présentés comme appartenant à la communauté Lendu se sont attaqués au Hema. Le différend pour les terres entre éleveurs Hema et agriculteurs Lendu en Ituri est une des nombreuses sources de violence dans l'est de la RDC. Le bilan risque d'être plus lourd selon la société civile locale. Nous y reviendrons dans la partie magazine. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson est attendu en Afrique la semaine prochaine pour une visite dans 5 pays. Ce sera la première visite officielle du chef de la diplomatie américaine sur le continent depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Le point avec John Lyndon.
Pour sa première visite officielle en Afrique, le chef de la diplomatie américaine se rendra au Tchad, en Éthiopie, au Kenya, au Nigeria et à Djibouti. Selon la porte-parole du département d'État Heather Nauert, cette visite s'étalera du 6 au 13 mars. Selon elle, M. Tillerson entend discuter des moyens pour les États-Unis de travailler avec les partenaires africains pour lutter contre le terrorisme, favoriser la paix et la sécurité, promouvoir la bonne gouvernance et encourager un commerce et des investissements mutuellement avantageux. À Addis Abeba, Rex Tillerson aura une rencontre avec les responsables de la Commission de l'Union africaine. Lors d'une rencontre en novembre dernier à Washington avec des responsables de l'Union africaine, Rex Tillerson n'avait défini que des objectifs très généraux de sa politique africaine.
Au Kenya, un neurochirurgien du plus grand hôpital du pays a été suspendu après avoir opéré du cerveau un patient qui n'était pas le bon. Ce scandale qui a suscité des réactions horrifiées sur les réseaux sociaux est le dernier touchant le Kenyatta National Hospital au cours des dernières semaines après des allégations d'agressions sexuelles commises par des membres du personnel soignant à l'encontre de patients et le vol d'un bébé. Le chirurgien, deux infirmières et un anesthésiste ainsi que le directeur de l'hôpital ont tous été suspendus. Et puis le président américain Donald Trump a de nouveau menacé ce vendredi d'imposer des taxes réciproques sur les importations de certains produits aux États-Unis, faisant monter d'un cran les menaces de guerre commerciale. Ces nouvelles déclarations surviennent au lendemain de son annonce de l'imposition prochaine de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium aux États-Unis, ce qui a déclenché des menaces de riposte de la part de certains pays. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et c'est Dili Diko qui nous présente la Minute Éco.
La Côte d'Ivoire souhaite mobiliser 600 milliards de francs CFA sur le marché international de la dette. L'opération va servir à financer son budget, estimé à 6 756 milliards de francs CFA. La moitié de cette somme devrait être obtenue grâce aux recettes fiscales et près de 1 300 milliards de francs CFA seront mobilisés auprès des partenaires au développement. Le Kenya va bénéficier de 217 millions de dollars pour la mise en place de projets d'approvisionnement et d'assainissement de l'eau. Ces nouveaux financements arrivent dans un contexte de forte pénurie d'eau à Nairobi, Mombasa et Kisumu. Ils serviront à construire un nouveau barrage à Mombasa, à rechercher de nouvelles sources d'approvisionnement et à moderniser les réseaux existants à Kisumu et dans d'autres villes de l'ouest du Kenya. Sur le marché des matières premières agricoles, le cacao a grimpé alors que la récolte s'annonce moins élevée que prévu. Le cours du cacao a atteint vendredi son plus haut niveau depuis 14 mois à New York, à 2280 dollars la tonne. Les analystes de Capital Economics soulignent que les conditions météorologiques trop sèches pourraient impacter la récolte en Afrique de l'Ouest. Quant au cours du sucre et du café, ils ont été hésitants cette semaine en raison d'une surabondance de l'offre.
Et c'est l'heure des sports et c'est Raïssa Girondin qu'on retrouve pour cette page des sports. Bonsoir Raïssa.
Bonsoir Abdourahmane.
Ligue des champions, Zidane se méfie de Paris, même sans Neymar.
Oui, en dépit du forfait de Neymar, le Real Madrid aborde toujours avec méfiance son 8e de finale retour de la Ligue des champions mardi face au Paris Saint-Germain. Écoutons les déclarations de ce vendredi de l'entraîneur madrilène Zinedine Zidane qui refuse de croire que ce duel sera facile.
Moi, ce que je sais, c'est que de toute façon, c'est jamais gagné. Rien n'est jamais acquis, rien n'est jamais gagné. Il faut juste toujours se dire que les matchs, en fait, ils sont là pour justement montrer qu'on est bien, qu'on est présent, qu'on est là. Et bon, il y a eu 5 matchs avec celui de Paris, 4 en championnat. Il y a eu celui de mardi où ça a été moins bien dans la deuxième mi-temps. Et ça prouve justement que c'est jamais acquis.
Oui, les propos de Zinedine Zidane recueillis en conférence de presse.
Et le nouveau coach national de Guinée, enfin dévoilé.
Oui, Abdourahmane, l'ancien entraîneur des étalons du Burkina Faso, récemment démissionnaire du Kenya, Paul Put, va prendre les rênes du Sili national de Guinée. Il remplace le Guinéen Kanfori Lapé Bangoura, limogé en plein championnat d'Afrique des Nations.
Direction maintenant Birmingham en Angleterre avec la deuxième journée des championnats du monde d'athlétisme en salle.
Oui, c'est l'éthiopienne Genzebe Dibaba qui a été sacrée pour la troisième fois d'affilée championne du monde du 3000 mètres en salle à Birmingham lors des mondiaux indoor. Elle s'est adjugée la victoire en devançant en 8 minutes 45 secondes et 5 centièmes la néerlandaise Sifan Hassan et la britannique Laura Moore. Aussi, le sprint féminin ivoirien est en bonne forme. Marie-Josée Talou, Muriel Aouré visent une médaille sur 60 mètres. Elles ont bien couru en série et se sont qualifiées très facilement avec le deuxième et le quatrième chrono sur l'ensemble des séries. La finale aura lieu dans quelques instants. À savoir que Muriel Aouré a déjà été 2 fois vice-championne du monde.
Raissa, on termine par la NBA, le championnat de basket nord-américain, Philadelphie, qui malmène Cleveland.
Les 30 points, 9 rebonds, 8 passes décisives de la superstar de Cleveland, LeBron James, n'ont pas suffi. En l'absence de Kevin Love, convalescent, et de J.R. Smith, LeBron James était seul. Cleveland s'incline à domicile face à Philadelphie, 108 à 97.
Voilà, Raissa Girondin, merci beaucoup.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, on passe au dossier du jour. Violence intercommunautaire dans le nord-est de la RDC, nouveaux affrontements entre Emma et Lindou dans la province de l'Ituri. Le dernier bilan fait état de 49 morts. L'ONU se dit préoccupée, craignant des recrutements d'enfants pour servir comme soldats des milices ou esclaves sexuels plutôt. Eddie Sango a interviewé le porte-parole de l'UNICEF, Yves Wilmot.
Nous estimons qu'aujourd'hui, il y a plus de 100 000 personnes qui sont déplacées suite au conflit interethnique, qui sont déplacées à l'intérieur même de la province de l'Ituri, et qu'il y a plus de 30 000 personnes qui ont fui la province de l'Ituri et qui, en tant que réfugiés, se sont installées dans le pays voisin qui est l'Ouganda. Parmi ces personnes qui ont fui la violence, il y a un nombre important d'enfants. Nous estimons qu'aujourd'hui, plus de 80 000 enfants sont en déplacement, ont quitté leur village d'origine, leur communauté d'origine, suite à la violence interethnique qui sévit dans leur communauté.
Cette région a connu une des plus graves crises dans les années 99 et 2000. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette résurgence de ces affrontements interethniques?
Je n'ai pas, en ce qui me concerne, une information et une compréhension très précise. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que la tension interethnique n'a jamais véritablement disparu et que de temps en temps, il y a eu des affrontements entre les différentes ethnies et qu'apparemment, récemment, c'est une confrontation entre des jeunes des deux ethnies qui a dégénéré dans une explosion de violence que nous vivons aujourd'hui et dont nous vivons les conséquences et tout particulièrement.